Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire, dont nous
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Les bourreaux et victimes en mêlent leur récit »,
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas. »
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs, bonjour. Faites un pas de côté ou renversez la tête en bas. Vous verrez sans doute le monde un peu différemment. Appelez-vous vous-même. Imaginez des milliards de personnes qui vivent en ce moment en même temps que vous. C'est votre moi qui vous semblera soudainement étrange. C'est à ce jeu que nous convie Roger Paul Droit avec son manuel de philosophie pratique intitulé « 101 expériences de philosophie quotidienne ». Vous connaissez peut-être Roger Paul Droit, mais si ce n'est pas le cas, sachez seulement qu'il est philosophe, enseignant et journaliste, et qu'il est un rare penseur à rappeler que la philosophie orientale existe. Mais écoutez plutôt ces expériences que vous propose de partager Valérie, Philippe, Anne, Gabrielle, Armelle et Christine.
Éplucher une pomme dans sa tête. Durée 20 à 30 minutes. Matériel aucun. Effet rassemblant. Nous nous croyons en général capables de nous représenter la réalité quotidienne avec une assez grande exactitude. Objets environnants, lieux familiers, aliments, gestes accomplis de façon répétée nous paraissent disponibles dans notre esprit. Nous pensons pouvoir allumer l'écran de notre conscience, si l'on ose dire, et y faire apparaître avec une précision suffisante toutes ces images connues. Sans doute avons-nous déjà plus de difficultés quand il s'agit d'évoquer des bruits et surtout des odeurs. Revivre mentalement un toucher, caresse, effleurement, baiser est sans doute plus ardu encore. Il se pourrait bien malgré tout que notre conviction de pouvoir reproduire la réalité dans notre tête de façon assez aisée et assez efficace soit pour une large part une illusion. Pour éprouver cette difficulté d'habitude masquée, il suffit, par exemple, de tenter d'éplucher une pomme dans sa tête. L'exercice paraît simple, vous imaginez le fruit, le couteau, l'incision, la pelure, voilà tout. Et pourtant, vous devez d'abord, pour que l'image possède quelque rapport avec la réalité, choisir une variété de pommes. Vous représentez exactement sa taille, sa couleur, son grain particulier. Vous devez avoir en tête une pomme de telle variété, mais aussi dans celle-ci une pomme singulière, dont les nuances de teinte, les parties éventuellement différentes, plus claires ou plus foncées, ou encore les bigaillerures, les petites taches et les plis infimes vous apparaissent de la façon la plus claire possible. Imaginez le couteau. Son manche est-il en bois, en plastique, en métal? La lame est-elle crantée, lisse, terne, aiguisée? Est-ce un couteau de cuisine, un couvert bourgeois, un opinel de campagne ou un laïol chic rustique? Et puis, comment allez-vous procéder? En jouant à ne faire qu'une pelure unique, en tournant la pomme sur elle-même sans à-coups, sans rompre le rythme? En découpant d'abord des quartiers qui seront ensuite un à un débarrassés de leur peau? Vous devez chaque fois vous représenter les mouvements avec une précision chirurgicale, une exactitude photographique. Le but à atteindre, c'est que ce film exact de l'épluchage se déroule dans votre esprit, plan par plan, image par image, seconde par seconde, sans arrêt, sans raté, sans erreur. Aucun flou, aucune hésitation. Et surtout, aucun blanc, aucune reprise. Vous n'avez pas droit à un raccord entre deux séquences. Vous n'y arriverez pas, sauf grand entraînement, exceptionnelle maîtrise. Il est surtout probable que vous perdiez le fil. La pomme change de couleur ou de forme, ses caractéristiques ne se maintiennent pas. L'épluchure ne tombe pas comme il faut, le couteau ne suit pas son chemin. Le mouvement devient saccadé, les images sont hachées, pénibles à reprendre et à enchaîner sans heurts les unes aux autres. Vous pourrez constater, si vous répétez plusieurs fois cette expérience, que le résultat s'améliore. Il est possible de progresser de manière parfois lente ou relativement pénible. C'est en tout cas un bon exercice de concentration. Mais cette expérience peut avant tout vous faire constater à quel point notre esprit est peu fidèle à la réalité, peu capable de la retenir et de la reproduire correctement. Bien présomptueux quand il se l'imagine.
Pensez à ce que font les autres. Durée, 10 à 15 minutes. Matériel, aucun. Effet, dissolvant. Vous êtes seul un moment. À tort ou à raison, cette solitude vous pèse. Vous vous sentez coupé du reste du monde. C'est évidemment faux. Pour entrevoir combien vous faites erreur, commencez par vous demander ce que font, à l'instant même, vos proches, votre famille, vos meilleurs amis. Représentez-vous avec le plus d'exactitude et de vraisemblance possible leur activité présente. Concevez aussi leur localisation spatiale. Par rapport au point que vous occupez à présent, sont-ils devant vous, derrière, à droite, à gauche, plus haut, plus bas? Imaginez leurs distances respectives. Voyez-les sous divers angles, silhouettes aux gestes exacts. Élargissez petit à petit le champ. Insérez dans la scène les gens qui sont autour de chacun d'eux. Songez ensuite à ce que font, dans chacun des villages, des quartiers, des villes, ceux de ce coin-là, qui travaillent, agissent ou errent. Combien à l'instant sont en train de dormir? Considérez la question sous l'angle planétaire. Quel pourcentage d'êtres humains à cet instant précis bâillent, se coupent les ongles, se tordent de douleur, s'éveillent en souriant, mangent de la soupe, hurlent de plaisir, s'ennuient à mourir? Combien à l'instant jouent du piano, écoutent du bac, sont en train de fuir la police, sortent d'une bibliothèque, se trouvent dans des avions, s'essuient l'anus, se lavent les mains, se brossent les dents, se mouchent? Combien pleurent et combien rient, parlent devant un auditoire, sont en train d'écouter, tentent de se suicider? Combien, à l'instant, se posent les mêmes questions?
Boire en pissant. Durée, 1 ou 2 minutes. Matériel, toilette et verre d'eau. Effet, ouvrant. Depuis des centaines de milliers d'années, l'immense majorité des humains vit et meurt sans avoir connu l'expérience qui va suivre. Elle est pourtant extrêmement facile et particulièrement intéressante. Comme tout le monde, vous pissez. et vous buvez à d'autres moments. Vous ignorez ce qu'on peut éprouver quand on fait les deux en même temps. Cette expérience va vous permettre de le découvrir. Vous aurez donc tout bêtement préparé un grand verre d'eau. Quand vous commencez à uriner, commencez à boire. Vous devez, autant que possible, boire de façon continue, d'un trait, sans temps d'arrêt. Des sensations tout à fait insolites vous habitent aussitôt. L'eau qui sort par votre sexe entre presque aussitôt en continuité avec celle qui entre par votre bouche. Vous allez donc soudainement imaginer et surtout éprouver une organisation de votre corps que vous n'aviez jusqu'alors pas même soupçonné possible. L'eau que vous buvez vous paraît sortir directement de votre vessie. Vous découvrez en quelques secondes un circuit direct, gorge, urètre, un parcours instantané, estomac, vessie, une physiologie impossible que cependant vous éprouvez de manière directe et indiscutable. Vous vous inventez en quelques secondes un corps délirant, simplissime, et que pourtant vous éprouviez de manière manifeste, indubitable. Plus d'intestin, de reins, de temps d'attente, de filtrage, de dialyse. L'eau circule en vous à la verticale, vous êtes traversé par le liquide frais, lavé du dedans, nettoyé d'une manière singulière et palpable. Votre organisme paraît ouvert du dedans, l'eau circulant souplement entre intérieur et extérieur, comme, au choix, un flux cosmique ou un lavage automatique. Cette expérience, renouvelable indéfiniment, d'un coup nul, toujours susceptible de réserver de nouvelles découvertes ou de curieuses surprises, n'est pas considérée comme une cure thermale.
S'appeler soi-même. Durée, 20 minutes environ. Matériel, un lieu silencieux. Effet, double. Asseyez-vous par terre, au milieu d'une pièce calme, de préférence peu meublée. Demeurez tout d'abord quelques instants attentifs au silence, sachant que vous allez parler et entendre. En écoutant intensément les très légers bruits qui vous entourent, pensez que bientôt cette paix va cesser. Préparez-vous à l'irruption d'une parole. Prononcez alors à voix haute votre prénom. Articulez distinctement et répétez. Insistez. Comme si vous deviez héler d'assez loin une personne demeurant sourde à vos appels. Imaginez que vous interpellez quelqu'un qui vous connaît mais ne vous aperçoit pas. De l'autre côté d'un champ, ou bien d'une rive vers un bateau, ou encore d'une maison à une autre. Au début, les 15 ou 20 premières fois, vous avez l'impression d'être simplement en train de parler dans le vide. Vous appelez quelqu'un d'absent, d'inaccessible, d'une manière absurde et ridicule. Vous avez beau allonger les voyelles, prononcer les syllabes sur des tons différents, vous n'arrivez pas à y croire. Continuez, la porte est bien fermée. Peu à peu, vous commencez à ressentir l'impression d'être appelé, de manière d'abord confuse, à peine perceptible, hésitante, mal assurée. C'est là qu'il convient de s'installer, attentif à cet équilibre instable entre le dedans et le dehors. Insistez, répétez, appelez-vous encore quelques dizaines de fois, machinalement, automatiquement. C'est bien votre voix, c'est aussi celle de l'autre, là-bas. Vous venez juste de l'apercevoir. Votre voix n'est pas dédoublée, et bien sûr, vous non plus. Vous sentez toutefois que vous êtes double, scindé en quelque sorte au dedans. C'est bien vous qui appelez, mais vous ne savez pas qui. C'est bien vous qui êtes appelé, mais vous ne savez pas d'où. Ou plutôt si, évidemment, vous savez bien que c'est vous dans les deux cas, et vous, vous supposez que ça ne fait qu'un. D'ailleurs, vous le savez, et là-dessus tout le monde est d'accord. Mais non, justement, ce n'est pas ce que vous éprouvez à présent. Vous savez bien que vous et vous ne font qu'un, mais vous ne le ressentez plus de manière pleine et évidente. Celui qui appelle est le même et n'est pas le même que celui qui est appelé. L'expérience consiste à prolonger quelques instants ce jeu du dedans et du dehors, de l'appel et de l'écoute. Il faut éprouver aussi loin que possible ce qu'a d'insolite ce prénom que l'on connaît, mais que jamais on ne peut adresser à soi-même sans justement se sentir un autre. Seuls les autres, évidemment, vous nomment ainsi, et vous-même, en temps normal, ne vous appelez jamais. Continuez à vous héler à intervalles réguliers en criant presque certaines fois. Le but est de susciter ce léger malaise, pas forcément désagréable, qui accompagne un petit décollement de soi par rapport à soi. Se maintenir un moment dans cette situation de fin vertige. Comment en sortir? De quelle manière colmater l'écart, recoller les bords? Dites simplement, d'une voix haute et forte, avec le plus grand naturel possible, « Oui, j'arrive !»
Aller chez le coiffeur. Durée, 2 heures environ. Matériel, un salon de coiffure. Effet, décoiffant. Ça paraît simple. Vous entrez, on vous fait un shampoing. Ensuite, quelqu'un vous coupe les cheveux, un peu, beaucoup, ou pas du tout. L'expérience consiste à éprouver d'abord combien cette situation banale est beaucoup plus compliquée qu'il ne semble. Vous pouvez imaginer en effet que vos cheveux ne sont pas une partie tout à fait indifférente de votre corps. Il n'est pas simple de comprendre la relation qu'ils entretiennent avec lui. Sont-ils inertes ou vivants? Insensibles ou parcourus d'une autre sorte de nerf? Sont-ils à l'extérieur de votre corps? Au-dedans? Entre les deux? Que se passe-t-il quand on les coupe? Il se pourrait que vos cheveux soient directement reliés à vos idées, et que vous n'ayez plus jamais les mêmes en sortant de chez le coiffeur. Il vous aurait coiffé l'âme, elle serait méconnaissable, inutilisable, vous ne vous retrouveriez plus en vous-même. Vous seriez tout à fait autre, désorganisé du dedans. Ou bien la séance de coiffure modifie votre apparence entière. Vous n'avez plus la même tête, tout aura changé, la forme du nez et la couleur des yeux, la largeur des joues. Votre corps tout entier sera altéré. Il sera devenu plus grand ou plus petit, rabougri ou boursouflé. Ou bien les coiffeurs sont des archanges, des messagers de Dieu, des rédempteurs de proximité. Vous quitterez le salon transfiguré, corps glorieux, porté par la musique des sphères et l'allégresse de la délivrance. Perdu ou sauvé, vous allez de toute façon vivre un moment décisif. Vous avez rendez-vous avec votre destin. S'annonce une mutation sans exemple. Opération terrible, alchimie innommable, la séance de coiffure vous laissera pantois, déglingué, victime de cataclysmes internes. Voilà ce que vous êtes parvenu à croire. Le second temps de l'expérience consiste à nettoyer ses fantaisies au shampoing anti-poux. Vous savez bien qu'en réalité, il ne se passera rien. Vous allez vous faire couper les cheveux, et c'est tout. Ce sera plus ou moins bien fait, plus ou moins conforme à l'idée que vous vous faites de l'esthétique qui vous convient. mais ces variations mineures sont sans conséquence. Elles sont dépourvues de la moindre importance. Vous aurez rêvé pour rien. Au moins, aurez-vous fait l'expérience de la distance séparant vos fantasmagories de la réalité. La réalité est toujours plate, banale, simple, dépourvue de relief, en un sens, rassurante.
Allumer un feu dans la cheminée. Durée 15 à 20 minutes. Matériel, cheminée, bois, papier journal. Effet primitif. Cette simple mise en route d'une flambée dans la cheminée serait comme un très vieux rituel dont vous auriez perdu le sens. Quelques pièges à éviter vous sont également connus. Dites-vous toutefois que vous avez égaré la portée de ces gestes. Ce que veut dire allumer un feu, vous ne le savez plus du tout. Vous ignorez même pourquoi depuis toujours cela vous émeut, d'une curieuse façon, attirante et rassurante. Vous allez donc faire chaque geste comme toutes les autres fois, mais en regardant. Vous voilà d'abord à genoux, ou accroupi. Pour préparer l'âtre, vérifiez que la cendre est enlevée ou repoussée, que l'espace est suffisant, l'aération aisée. Les bûches ne doivent pas être trop grosses, pour commencer, et légèrement surélevées, par des chenets, de simples briques, voire, à défaut, par quelques morceaux de bois, afin que l'air puisse circuler en dessous. Pour la même raison, veillez à ne pas coller votre bois contre le fond. Ménagez un espace, un passage. Ajoutez du petit bois, fagots, brindilles, cajots pour fruits et légumes, en quantité raisonnable. Découpez en lanières épaisses des stocks de vieux journaux, plutôt des quotidiens que des magazines qui brûlent moins bien. Ou tordez quelques pages pour obtenir comme des cordes de papier. N'obstruez pas l'espace. Laissez des vides sous les bûches. Allumez quelques feuilles et placez cette petite torche juste au centre. Les minutes qui suivent sont les plus intéressantes. Tout d'abord, une réponse immédiate. Des crépitements, des flammèches vives, quelques bons claquements. Puis, les premiers sifflements de bois qui suintent. Et le papier, une fois consumé, le temps du doute et de l'inquiétude. Les flammes disparaissent. Les braises sont presque inexistantes. Une lourde fumée signale seul un possible espoir. La fumée continue. Elle est dense, assez grosse. Le papier brûlé rougeoie encore un peu sur les bords, par franges, et puis s'éteint tout à fait. La pensée vous vient que ce feu ne prendra jamais, qu'une erreur s'est glissée quelque part. Bois humide, papier mal plié, trop tassé ou trop lâche. Tout semble comme d'habitude, et cependant vous doutez. Vous craignez, d'une manière absurde, injustifiée, non fondée, que l'opération ne rate. Vous ne savez pas vraiment si le rouge vous vient aux joues, à cause de la chaleur ou bien de l'inquiétude. Vous soufflez sur quelques braises, trop maigres, sans succès. La fumée s'épaissit. Le chuintement s'intensifie, mais le feu ne prend toujours pas. Vous pensez qu'il va falloir ajouter du papier, recommencer l'opération. Vous doutez. De petites flammes vives, intenses, jaillissent soudain de la fumée, qu'elles dissipent en un instant, comme si le feu avait soudain explosé. Vous allez suivre à présent sa manière de mordre, sa façon de s'emparer du dessous des bûches, de leur lécher l'écorce, de les gaufrer de rouge. Tout va bien. Demandez-vous ce qui vous a tant inquiété tout à l'heure, ce qui, à présent, vous rassure. Peut-être une mémoire toujours active des temps obscurs où perdre le feu était le seul enfer. Chaque flamme qui surgissait soudain signait la victoire magique sur la nuit, la faim, le froid, la mort.
Thank you.
Si vous n'avez pas eu le temps de faire ces expériences en direct, si vous voulez reprendre tout ou partie des textes de Roger Paul Droit, 101 expériences de philosophie quotidienne parue en 2003 chez Odile Jacob, allez sur le site de Radio G à la rubrique Impromptu littéraire pour écouter ou podcaster cette émission. Ce sont Valérie, Philippe, Anne, Gabriel, Armel et Christine qui ont préparé et lu ces textes. Claude Michel et Vincent étaient à la technique. La musique était de Rabbi Abou Kail, The Cactus of Knowledge. Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.